suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Il y a le public et le privé. D'un côté, le secteur public, de l'autre, le secteur privé. Ce clivage public-privé offre l'un des repères les plus pratiques et les plus partagés pour s'orienter dans la société et aussi l'analyser. En France en particulier, où la séparation fondamentale entre droit public et droit privé institutionnalise de longue date cette division du monde social. Pourtant, même s'il demeure très largement pertinent et puissant, ce clivage connaît un brouillage de plus en plus intense, au point qu'au lieu de demeurer un schème explicatif de certaines évolutions sociales et politiques, il peut désormais apparaître davantage comme un écran à la compréhension de certains phénomènes majeurs de reconfiguration de l'organisation sociale et des pouvoirs politiques et administratifs. Par une enquête saisissante sur l'évolution des mondes du droit et de la politique et des relations de l'un et de l'autre, les politistes Antoine Vaucher et Pierre France montrent comment en France, depuis une vingtaine d'années, le tournant néolibéral de l'État, plus que jamais régulateur, a profondément brouillé ce clivage public-privé. Pierre France, bonjour, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous bonjour. Êtes le co-auteur avec Antoine Vaucher, bonjour également, qui est directeur de recherche au CNRS, au Centre européen de sociologie et de sciences politiques de cette université Paris 1-Sorbonne. Vous êtes les co-auteurs de Sphère publique, intérêt privé, enquête sur un grand brouillage, un petit ouvrage extraordinairement dense qui paraît dans une très forte actualité aux presses de Sciences Po, Antoine Vaucher. Je dis dans une très forte actualité parce que ce livre est précieux pour qui veut comprendre un certain nombre de choix qui ont été opérés par les nouveaux responsables politiques, ceux qui sont issus de l'élection présidentielle. Je parlais d'abord du président de la République, élu récemment, Emmanuel Macron, mais aussi du Premier ministre qu'Emmanuel Macron a désigné, Édouard Philippe. Et puis au-delà de ces deux figures, de ces deux hommes qui incarnent désormais les deux postes les plus importants de l'exécutif, de ceux aussi qu'ils ont choisis pour s'entourer. On sait que ces postes sont extraordinairement importants, ceux de directeur de cabinet, ceux de secrétaire général de l'Élysée, etc. Et on voit en ce moment se mettre en place tout ce nouveau pouvoir politique, cette articulation avec l'administration. Et quand on lit en parallèle de cette actualité votre ouvrage, on ne peut qu'être que vous remercier de nous éclairer, parce qu'au fond, vous éclairez au-delà de ces hommes un phénomène beaucoup plus large qui a vu, à partir du milieu des années 90, des changements souterrains, profonds, voire le jour dans cet univers politico-administratif. Et vous choisissez de le regarder à travers un domaine qui est très important, qui est celui du droit. Ce n'est pas le seul, vous auriez pu regarder autrement, mais vous regardez, au fond, comment désormais s'articule de manière nouvelle, à bien des égards, ces pouvoirs administratifs, politiques, économiques, et comment, dans cette nouvelle articulation, le rôle de certaines personnes, de certains individus, et leur parcours en particulier, leur circulation, c'est très important, nous permet de comprendre véritablement comment s'exerce le pouvoir et de sortir au fond des catégories un peu stables des institutions politiques. C'est l'intérêt de la sociologie politique, Antoine Vaucher.
Oui, c'est ça. Effectivement, depuis la nomination de ce gouvernement s'inscrit, je dirais, dans une succession d'éléments de la chronique politique et judiciaire depuis une quinzaine d'années, qui est en fait en quelque sorte à l'origine de cet ouvrage, qui nous montre que à la frontière du public et du privé, on voit un ensemble de circulations qu'on n'avait pas l'habitude en quelque sorte d'observer. Alors, on peut prendre effectivement la figure d'Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre, qui est effectivement membre du Conseil d'État et issu d'un grand corps, mais qui est passé par les affaires publiques public chez Areva, donc en quelque sorte lobbyiste en chef de ce groupe, et ensuite, auparavant plutôt, est passé par un grand cabinet d'avocats international. Et c'est en partant en quelque sorte de cette chronique judiciaire et politique, hein, je dis judiciaire parce que récemment on avait l'affaire Lagarde, hein, qui montrait comment au moment de saisir la justice, Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, avait eu recours à des institutions d'arbitrage privé au lieu de s'en
d'une justice publique.
À une justice publique. Donc il y a un ensemble d'éléments qui indiquent un brouillage, et on a choisi en quelque sorte, pour essayer de saisir ce brouillage, de partir du droit. Il me semble que le droit, c'est un des instruments de l'action d'État, c'est aussi un des instruments de légitimation de l'action publique, et du coup ça nous offre en quelque sorte une vue de coupe, hein, des transformations de l'État et de cette frontière du public et du privé. Le droit suit en quelque sorte l'État comme une seconde peau, en quelque sorte. Et pas seulement le droit, mais l'émergence au croisement justement de l'économie, de la politique et de l'administration d'un barreau d'affaires, d'un nouveau segment en quelque sorte de la profession d'avocat.
On pourrait partir de là au fond, parce que c'est la façon dont un certain nombre d'entre nous avons probablement pris conscience de ce phénomène. Le fait que soudainement on réalise qu'un nombre de plus en plus important de responsables politiques s'inscrivent au barreau, comme on dit, c'est-à-dire deviennent avocats alors qu'ils avaient été ministres ou parlementaires. C'était la partie visible de l'iceberg qui a interrogé certains, qui a suscité un certain nombre d'articles de journaux. Alors, Pierre-France, peut-être vous pouvez nous rappeler ce qui a rendu possible ça, c'est-à-dire un changement des règles du jeu, des règles qui désormais rendaient possible pour des gens qui avaient eu un certain type d'expérience professionnelle ou de mandat public, le fait de devenir avocat, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Oui, alors tout à fait. Il y a un décret en fait en 1991, le 27 novembre 1991, qui est le décret qui ouvre une nouvelle possibilité, un nouveau jeu, finalement un pantouflage qui n'existait pas, et qui va d'abord susciter l'intérêt non pas des hommes politiques, mais plutôt des hauts fonctionnaires. On a justement, vous en parliez et Antoine est revenu dessus, une chronique judiciaire et médiatique des passages de personnes comme Jean-François Copé ou Dominique de Villepin qui cachent un phénomène beaucoup plus ancien, qui commence donc en 1991 et qui prend de l'importance jusque dans les années 2010.
Alors, c'est le monde du droit qui est complètement transformé, parce qu'on voit aussi fusionner des univers professionnels différents. D'un côté, la profession d'avocat classique, qui d'ailleurs n'est plus tellement représenté parmi les parlementaires. On est loin de la Troisième République, on est loin même de la figure d'un François Mitterrand qui avait été avocat, même si ça restait une pratique très très lointaine. Mais en revanche, on voit la fusion avec ce qui relève du conseil juridique, notamment dans les matières fiscales. Et là, ça transforme complètement cet univers du droit, Antoine Vaucher.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que pour penser justement ce rôle nouveau du barreau, et notamment de ce barreau d'affaires, il faut peut-être changer notre vue de cette profession d'avocat qui, en fait, a vécu une profonde transformation depuis les années 70 avec l'émergence en quelque sorte de une rupture d'abord avec le barreau classique, ce barreau judiciaire justement, ce barreau des avocats pénalistes, et qui au contraire s'est rapproché considérablement du monde des affaires. C'est notamment un travail une stratégie de reconquête du conseil juridique aux entreprises qui avait été largement délaissé par la profession, par donc une fraction internationalisée de la profession à partir des années 80, ce qui est rendu possible aussi par la fusion de cette profession d'avocat avec le conseil juridique, souvent des conseillers fiscaux notamment. Et puis progressivement aussi l'élargissement donc de la palette des services que les avocats sont capables de rendre aux entreprises. Donc pas seulement les défendre devant les tribunaux, mais aussi les conseiller, donc juridiquement, leur offrir un lobbying politique et administratif, jouer le rôle d'arbitre, de mandataire. Et donc on voit bien que la profession d'avocat n'est plus seulement donc ce rôle de défenseur, voilà, qui s'intéresse essentiellement, disons, à la justice, mais devient véritablement le mandataire, le porte-parole des entreprises. Et cette transformation que Yves Dezalet avait déjà évoqué il y a quelques années en parlant de marchand de droit, eh bien, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'elle a été rendue possible par le fait que la profession d'avocat a accompagné, en quelque sorte, les transformations, la mue libérale et régulatrice de l'État.
Alors, c'est important de dire et régulatrice. C'est-à-dire que là encore, on a un clivage, une façon de penser caricaturale qui nous empêche de véritablement comprendre cette transformation. L'État est dans le même temps devenu davantage néolibéral, mais aussi davantage régulateur, et ça n'a rien d'une contradiction, Pierre-France.
Alors oui, on a souvent cette image d'un État démantelé, d'un État qui finalement externalise les fonctions qu'on lui attribue traditionnellement. Ce que ce livre souligne, dans la continuité de bien des travaux sur cette question de l'État régulateur, c'est que l'État surtout se redéploie. On a une création de nouvelles fonctions, de nouvelles manières de faire de l'État, qui consiste notamment non plus à créer des lois de son côté, mais à les négocier avec les personnes sur lesquelles elle va être appliquée. C'est ce qu'on appelle la régulation. Et cette régulation, notamment, s'incarne dans de nouvelles institutions qui sont largement passées inaperçues pendant des années. Les agences, les autorités administratives indépendantes qui ont cette particularité, justement, d'aller dans leur fonctionnement même un petit peu à l'encontre de cette mue néolibérale de l'État, puisque c'est des agences, il y a plusieurs rapports parlementaires l'ont souligné, dont le nombre de personnes augmente, dont les budgets augmentent, alors que dans le même temps, l'État lui-même classique a tendance à plutôt être... on dirait dégraissé.
Antoine Vaucher.
Pour aller dans le sens, prolonger ce que dit Pierre-France, on assiste à une forme de nouvel interventionnisme public, mais un interventionnisme libéral. Il ne s'agit plus là, à travers les agences, de faire exister un autre modèle d'économie, d'économie mixte, par exemple à la française, comme c'était le cas dans les années 70, mais au contraire de construire une fabrique publique des marchés. L'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers, à mesure que les secteurs qu'on appelait monopolistiques se sont libéralisés, je pense au transport, aux télécommunications.
Il y a eu des nationalisations, ça a commencé aussi dans les années 80 beaucoup.
On a transformé ce mode de régulation, enfin ce mode d'action publique autour justement des autorités de régulation. Et évidemment, du coup, la place de l'État finalement dans les marchés privés, dans l'organisation des marchés privés, par le biais de mécanismes d'agrément, d'autorisation de mise sur le marché, voilà, de décisions, de sanctions, eh bien, a pris une place très importante. Et les cabinets d'avocats sont devenus, en quelque sorte, les premiers interlocuteurs de cette nouvelle donne. C'est eux qui accompagnent l'État dans cette transformation néolibérale autour des agences, dont ils sont des interlocuteurs permanents, mais aussi, il faudrait le rajouter, dans le fait que l'État actionnaire, l'État investisseur, l'État de la commande publique s'appuie désormais, parce qu'il veut montrer qu'il est un opérateur économique comme les autres, un opérateur de marché crédible, eh bien il s'appuie sur des montages juridiques et financiers qui supposent de faire appel aux banques d'affaires, qui supposent de faire appel aux cabinets privés d'avocats.
Alors, je disais, vous avez travaillé sur le monde du droit, mais vous venez de parler des banques d'affaires, ça aurait pu être aussi un autre champ d'investigation qui est d'ailleurs contigu en quelque sorte, parce que c'est pas tout à fait les mêmes métiers, mais enfin, il y a des compétences conjointes, communes, très très importantes. Alors là, on vient de décrire au fond la manière dont l'État s'est redéployé, disiez-vous. Ça, c'est l'aspect institutionnel, mais pour peupler ces institutions, il faut bien des individus. Or, et c'est là que votre livre est très intéressant, vous parliez de pantouflage tout à l'heure, Pierre-France, d'un nouveau type, parce que le pantouflage autrefois renvoyait à l'idée de hauts fonctionnaires qui, après avoir passé 10 ou 15 ans dans l'administration, choisissaient d'aller exercer leur métier dans des grandes entreprises privées, on pense plutôt au secteur bancaire ou à l'industrie, classiquement. Là, en fait, ce pantouflage change non seulement de secteur, puisqu'on va voir ces hauts fonctionnaires aller travailler dans des cabinets d'avocats, mais il change aussi de signification, parce que pantouflage renvoie trop à l'idée d'un billet aller simple, alors qu'en fait, il y a de multiples allers-retours, et c'est la circulation désormais qui est importante. On voit des individus passer régulièrement d'une position à l'autre, d'un côté de l'État ou de ces grands cabinets d'avocats, par exemple, voire même du Parlement au cabinet ministériel, puis dans les cabinets d'avocats, et aller-retour et vice-versa. Pierre-France.
Oui, effectivement, il y a eu on a cette image assez traditionnelle du pantouflage qui est presque un pantouflage de fin de carrière. Là, on a des gens qui pantouflent plutôt en milieu de carrière et qui n'ont pas l'intention spécialement d'aller dans...
D'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on change de mot, parce qu'en fait, ça renvoie à l'idée qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on se repose. Ce qui n'est pas le cas de ces gens qui sont très investis. Je pense que là, on a un concept qui ne correspond plus à la réalité que vous décrivez très bien dans
Alors oui, on est parti d'une idée que ça pouvait être un nouveau type de pantouflage pour trouver finalement qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui était plus important. Notamment, ce qui m'apparaît très saillant dans ces nouvelles circulations, c'est que la charge de la légitimité est un petit peu inversée. Auparavant, on allait dans le privé avec une légitimité venant du public. Aujourd'hui, on a des gens qui passent dans le privé pour retourner dans le public et qui ont besoin de cette légitimité à l'image, finalement, du nouveau président de la République et du Premier ministre.
Alors ce phénomène est assez... Alors vous avez mené une enquête, Antoine Veuchet, donc vous pouvez peut-être nous dire quelques mots, c'est-à-dire que vous avez regardé les parcours de certains de ces individus, vous avez mené des entretiens. Comment vous avez procédé pour évaluer en quelque sorte l'ampleur et la nature de ce mouvement que vous décrivez?
Oui, ben c'est-à-dire que quand on essaye de saisir justement ce barreau, il y a un ensemble de difficultés. Évidemment, entrer dans les cabinets d'avocats, c'est très difficile.
Le secret est la règle.
Le secret professionnel domine. Et donc, une des façons par lesquelles on a contourné justement cette difficulté, c'est de constituer une base de données biographiques, d'essayer de mettre en série les biographies, les trajectoires d'un ensemble de transfuges, comme on les a appelés, c'est-à-dire de hauts fonctionnaires et d'hommes politiques, qui à partir de ce décret de 1991 dont on a parlé, quitte ou passe en tout cas du public vers le privé. On a réuni comme ça un ensemble de 217 individus, mais dans la mesure où il s'agit d'une reconstitution, on peut pas dire que c'est nécessairement une population complète, mais ce que cette population fait apparaître, effectivement, ce sont des circulations continues entre les différents pôles de la régulation, justement. Pas seulement directement, je dirais, de l'État au cabinet d'avocats, mais en passant par un ensemble de SAS qui peuvent être des espaces de passage. Ça peut être justement ces agences des régulations qui sont des espaces de mise en contact, en quelque sorte, des agents publics avec l'espace du privé. Ça peut être aussi le cas des cabinets ministériels et aussi d'entreprises, d'administration, de grandes entreprises. Donc on voit là une sorte de nouvelle circulation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la périphérie de l'État et que c'est un pantouflage, si on utilise ce mot, qui est un pantouflage du coup d'influence, un pantouflage d'affaires publiques. Ça n'est pas l'idée de partir dans une grande entreprise. Il s'agit plutôt d'être dans le monde des affaires publiques, du lobbying, des cabinets d'avocats. Donc on a là quelque chose qui est nouveau. On l'a appelé pantouflage néolibéral, si on veut, mais c'est surtout l'idée, effectivement, que c'est à la périphérie et en accompagnant ces transformations justement de la régulation publique qu'émerge cet espace de circulation qui s'autonomise progressivement de par justement les trajectoires successives de ces très hauts fonctionnaires la plupart du temps et hommes politiques.
Pierre-France, pour bien comprendre les enjeux politiques et démocratiques qu'il y a derrière, il faut peut-être détailler ce qu'on met derrière l'expression « affaires publiques » ou l'expression « lobbying ». En fait, on a affaire à des gens qui ont des compétences juridiques, qui vont être salariés de très grandes entreprises, mettons, responsables des affaires publiques, et qui vont, entre autres choses, être amenés à rédiger des amendements pour un texte de loi. Alors même qu'ils ne sont pas institutionnellement des législateurs, on peut considérer, du point de vue de la sociologie politique, que ce sont des législateurs, ou en tous les cas, qui prennent part au processus de fabrique de la loi. Ça, c'est la réalité politique du pays dans lequel on vit aujourd'hui, qui est assez largement passée inaperçue par la chronique politique telle qu'elle est décrite par les médias ou par les acteurs politiques eux-mêmes. Une grosse partie du travail législatif s'opère dans ces relations entre ces acteurs privés extraordinairement puissants, dotés de personnes qui ont ces compétences juridiques et qui viennent travailler à leur service après avoir travaillé au service d'administration, par exemple, ou du gouvernement. C'est la réalité du pouvoir politique au concret aujourd'hui en France.
Alors tout à fait, les cabinets d'avocats sont au centre de cette dynamique et on a effectivement des cas de cabinets qui font du lobbying pour justement changer des lois, apporter des amendements. Et on peut légitimement se douter que les personnes qui sont recrutées dans ces cabinets au titre de counsel en droit public ou en affaires publiques ou en lobbying public sont des gens qui, justement, font preuve d'intermédiation avec cette particularité que les cabinets d'avocats sont régis par le secret professionnel.
Ces gens ont des compétences techniques, juridiques, mais ils ont surtout des carnets d'adresses énormes, et c'est une des raisons pour lesquelles on les sollicite, Antoine Vaucher.
Oui, certainement. En fait, il devient, comment dire, c'est un des éléments aujourd'hui de la réputation, en quelque sorte, d'un cabinet d'avocats, d'être capable d'aligner, en quelque sorte, d'un grand cabinet d'avocats, hein, d'être capable d'aligner dans son effectif, non pas seulement des avocats issus des diplômes de droit, mais aussi des hauts fonctionnaires, des hommes politiques. Ça fait partie, effectivement, de la réputation aussi que construit. Parce qu'il faut quand même aussi bien voir qu'aujourd'hui, et c'est là quelque chose qui renvoie aux transformations du monde économique, les grandes opérations économiques et financières que conduisent les grands groupes sont d'abord, enfin autant en tout cas, des batailles juridiques. Des batailles juridiques qui se jouent sur la capacité à influencer à différents niveaux les règles du jeu.
À interpréter des normes.
À interpréter des normes, mais dans différents endroits. Ça peut être aussi bien à la Direction générale de la concurrence à Bruxelles, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, dans les agences de régulation, au Conseil constitutionnel,
voire dans les collectivités territoriales.
Question prioritaire de constitutionnalité, effectivement, dans les collectivités locales. Et donc, c'est un élément essentiel de la capacité, du pouvoir de marché, en quelque sorte, d'une entreprise, de n'être pas seulement capable d'innover, je dirais, du point de vue économique et commercial, mais aussi de pouvoir s'inscrire, justement, peser, influencer sur les règles du jeu, les règles publiques, la régulation publique, cette fabrique publique des marchés privés dont on parle.
Mais si je vous comprends bien, c'est non seulement se mettre en conformité dans son activité économique avec les règles du jeu, mais essayer de faire en sorte que ces règles soient configurées de telle manière qu'elles vous profitent davantage à vous, par exemple, qu'à votre concurrent commercial sur ce même marché. Ça peut aller jusque-là, Pierre-France.
Oui, c'est comme le disait Antoine, il y a vraiment un enjeu de marché et il s'agit de se donner les moyens d'influencer cet État régulateur, justement, cet État qui n'a plus les moyens forcément d'être comment dire régalien ou très dur sur certains points, mais avec lequel il va falloir transiger. Et c'est la capacité à pouvoir transiger, les canaux qu'on peut trouver pour transiger, pour négocier avec cet État, qui compte aujourd'hui.
On voit que le libéralisme n'est pas forcément non plus le bon mot pour caractériser cette situation.
Non, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que un des résultats, il me semble, qui rejoint d'autres travaux, d'ailleurs notamment de Colin Crouch, sociologue britannique, sur le fait que, effectivement, ce qui était un des objectifs de ce tournant néolibéral de l'État, qui était de clarifier la répartition des rôles entre le public et le privé, débouche en réalité sur une zone de contiguïté, un espace d'interdépendance et d'échange du part et d'autre de la frontière publique et privée qui est en quelque sorte inédite. Hein, et l'émergence et d'une parallèlement grande, et d'une de professionnels de cette frontière, en quelque sorte, qui savent effectivement jouer sur ces règles.
Et d'une grande complexité, ce qui évidemment valorise les compétences de ceux qui savent naviguer dans cet univers dont la cartographie est assez peu accessible.
Tout à fait. Je pense que c'est aussi, je pense, un des éléments que fait apparaître l'analyse des trajectoires, c'est l'éclatement de la notion de public. Cette sphère publique, en fait, elle existe sous des formes extrêmement variées qui vont de la Commission européenne jusqu'aux collectivités locales, en passant par les agences, encore une fois, les directions administratives de Bercy, les pôles économiques et financiers des tribunaux. Et donc, parallèlement, émergent des grandes organisations du droit, des multinationales du droit, ce qu'on appelle les law firms, qui ont la capacité de jouer sur plusieurs tableaux, qui disent être pluridisciplinaires, ce qui est une façon de dire qu'elles peuvent circuler justement entre les espaces de droit.
Oui, Pierre-France.
Vous parliez de cartographie. Ce qui me semble important aussi de noter, c'est que on a un État aujourd'hui, en l'occurrence l'État français, qui n'est pas tout à fait capable de connaître sa propre cartographie. Et ces zones d'ombre ne sont pas que des zones d'ombre pour nous ou pour la démocratie en général, mais on a un État qui clairement n'a plus les moyens de connaître ses propres frontières et qui laisse, disons, la charge de la connaissance de cette nouvelle zone grise plutôt au secteur privé.
Ça, c'est assez incroyable. On est loin de l'organigramme d'un État organisé par grandes directions nationales dans les ministères. Ça ne suffit plus à décrire la réalité de cet État. Et je voudrais qu'on termine cette émission qui nous permette de mieux comprendre ce qui est en train de se passer à la fois depuis 20 ans ou 25 ans, mais en même temps aussi depuis quelques jours, à certains égards, Antoine Vaucher, par une notion dont on a beaucoup parlé ces derniers jours dans l'actualité, celle de conflit d'intérêts. Parce qu'évidemment, cette zone grise que vous venez de décrire, elle est traversée de ces conflits. Et en même temps, jamais sans doute la préoccupation publique pour ces conflits d'intérêts n'a été aussi grande et jamais n'a-t-il été aussi difficile de se faire une idée de ces conflits d'intérêts qui ne sont pas toujours facilement repérables, j'imagine.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, la catégorie de conflit d'intérêts, c'est, je dirais aujourd'hui, la catégorie réformatrice principale pour penser justement les difficultés, les coûts politiques liés à ce brouillage des frontières. Je pense que un des éléments que fait apparaître notre travail, c'est que cette catégorie, qui est d'abord une catégorie de droit et qui peut effectivement être utile à des fins judiciaires, parce qu'elle est justement, elle cherche à saisir des situations individuelles, parce qu'elle cherche à saisir simplement des interférences, manque finalement peut-être l'essentiel, qui est peut-être un conflit d'intérêts, alors je dirais systémique, qui manque, qui ne nous permet pas peut-être de penser au-delà justement d'interférences ponctuelles, les coûts politiques et démocratiques qui sont liés à ce brouillage des frontières. Je pense que d'une certaine manière, on a du mal aujourd'hui à penser, et c'est un des effets de ces transformations sur 25 ans, la spécificité d'un intérêt public. Je pense aussi que ce brouillage des frontières, eh bien, il donne aujourd'hui une capacité politique nouvelle aux grandes entreprises qu'il faut être capable de saisir. Il me semble aussi que ce brouillage des frontières, eh bien, il conduit à parcelliser en quelque sorte l'intérêt public au sein d'un ensemble d'agences où, du coup, les formes de l'interpellation citoyenne, les formes du contrôle politique paraissent justement difficiles et où on voit bien, du coup, qu'il y a ce qu'on appelle un trou noir du pouvoir, c'est-à-dire un espace qui tombe en quelque sorte dans l'angle mort des régulations professionnelles, du barreau d'affaires qui fonctionne sur le mode de l'autorégulation, mais aussi des régulations et des contrôles politiques et parlementaires.
J'ajouterais à ça, merci Antoine Vaucher, merci Pierre France, cet élément de nouveauté qui est qu'aujourd'hui les postes principaux de l'exécutif sont occupés par des gens qui appartiennent à une génération qui est native, comme on dit aujourd'hui, de ces transformations, qui a vécu ces transformations depuis le début de son expérience professionnelle. Et ça, c'est une première dans l'histoire de la Ve République et de la démocratie en France. Donc on pourra observer si cela va amplifier en quelque sorte un certain nombre des mouvements que vous décrivez. En tous les cas, ces gens aujourd'hui se retrouvent aux postes non seulement administratifs mais politiques les plus élevés du pays. Je rappelle le titre de ce livre passionnant et d'une actualité brûlante, Sphère publique, intérêt privé, enquête sur un grand brouillage. Il est signé Pierre France et Antoine Vaucher. Il paraît aux presses de Sciences Po. Vous trouvez la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira et puis sur laquelle vous pouvez aussi vous abonner, et je vous le conseille vivement, au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau attaché de production, Catherine Donnet à la technique, Benjamin Vignal à la réalisation, Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants, c'est Étienne Klein que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour sa conversation scientifique.